la jeunesse de Catherine Dutu, à qui je dis bonjour. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'intégralité d'une tranche d'âge, filles et garçons, soit 800 000 à 900 000 jeunes bientôt appelés pour un service national universel. Le Premier ministre Édouard Philippe en dévoile les grandes orientations ce matin. Un mois obligatoire vers l'âge de 16 ans. Les organisations de jeunesse et des parlementaires sont dubitatifs, voire hostiles, vous l'entendrez.
Et puis la formule macronienne du « en même temps » à l'œuvre sur la question migratoire. Le président français veut bien accueillir des migrants rescapés de leur traversée de la Méditerranée, mais il condamne les organisations humanitaires leur portant secours.
Aux États-Unis, la Cour suprême a offert hier une victoire symbolique à Donald Trump sur son décret migratoire controversé contre 7 pays à majorité musulmane. Mais la politique de tolérance zéro à l'immigration illégale à la frontière avec le Mexique est de facto suspendue faute de place pour détenir les familles arrêtées à la frontière mexicaine. Le démarrage des soldes, aujourd'hui en France, un modèle qui semble en perte de vitesse sous la pression des offres promotionnelles. Comment les dynamiser, ce sera l'objet du billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis la question du jour, Catherine, pourquoi la France ne parvient-elle plus à faire baisser les chiffres de la mortalité infantile? On posera la question à un démographe, Gérard-François Dumont, dans une quinzaine de minutes.
Le retour du service national, c'était une promesse de campagne du candidat Macron. Le Premier ministre Édouard Philippe doit annoncer ce matin en Conseil des ministres les grandes orientations du service national universel pour les jeunes. Il devrait durer un mois, obligatoire entre 15 et 18 ans, 800 000 à 900 000 jeunes concernés chaque année. Le gouvernement promet une large consultation sur le sujet à l'automne prochain, mais les associations de lycéens et d'étudiants refusent déjà ce caractère obligatoire. Doute également chez les parlementaires, un rapport publié en février dernier pointait déjà les difficultés financières et logistiques pour mettre en place un service national universel, même d'un mois, Solène Cressant.
Ce rapport bipartisan a été rédigé par Émilie Guérel de La République En Marche et Marianne Dubois des Républicains. Et cette dernière est franche, un mois de service universel, c'est un raté.
C'est pas en un mois qu'on fait un bon citoyen. C'est un parcours dès le plus jeune âge, jusqu'au-delà des 25 ans aussi si on le souhaite. Je me porte en faux sur le projet gouvernemental.
Dans leur rapport, les deux députés préconisent plutôt un renforcement de l'enseignement citoyenneté défense de la 6e à la 3e. Mais elles soulignent surtout les difficultés pratiques et financière du service universel d'un mois, rappelle Marianne Dubois.
Pour moi, ça me paraît difficilement réalisable. Il va falloir à un moment donné héberger entre 700 et 800 000 jeunes, même si ce n'est pas dès la première année. Est-ce que ce seront dans des casernes? Les casernes, nous n'en avons plus guère. Est-ce que ce seront dans des lycées? Quel type d'hébergement?
Les deux députés, Marianne Dubois et Émilie Guérel, étaient donc d'accord. Les infrastructures n'existent pas pour un tel service. Mais aujourd'hui, la co-rapporteure de La République En Marche défend tant bien que mal la ligne du gouvernement.
Nos préconisations, en tout cas, justement, allaient dans le sens des un mois aussi. Je disais qu'on avait les structures. Et ce sera sous forme de roulement. Vous voyez ? Sinon, en un mois, on ne pourra pas tous les accueillir.
Le gouvernement promet une grande consultation à l'automne prochain. Mais pourquoi le faire après les annonces ? S'interroge la députée Les Républicains, Marianne Dubois. De son côté, la marcheuse Émilie Guérel assure que tous les avis seront pris en compte dans les modalités finales.
Et Jimmy Losfeld, le président de la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes, s'est dit opposé à ce service obligatoire d'un mois, dénonçant son côté paternaliste et son coût, et d'ironiser en détournant des propos d'Emmanuel Macron. Le président français est prêt à dépenser un pognon de dingue pour un service dont la jeunesse ne veut pas, a déclaré le leader étudiant. Il y aura bien grève à la SNCF les 6 et 7 juillet prochains pour le premier grand week-end de départ en vacances cet été. Sudrail et la CGT ont décidé de faire front commun, quitte à s'attirer de nouvelles critiques de la part des usagers, Maxime Deps.
Une mise au point d'abord, si les cheminots font ça, non, ce n'est pas par plaisir.
Nous marquons le fait que le gouvernement qui fanfaronne sur le fait qu'il a passé sa loi n'est pas quitte du sujet.
Et qu'on soit clair, oui, Laurent Brun de la CGT est bien conscient de la gêne occasionnée.
Malheureusement, le mouvement social et les revendications des salariés ne peuvent pas s'arrêter parce que les salariés partent en vacances.
La CGT qui insiste bien, son but n'est pas de tout bloquer, de transformer l'été des Français en cauchemar. Elle reste d'ailleurs pour l'instant sur ces deux dates, du 6 et du 7. En revanche, Sudrail veut permettre aux cheminots de décider à leur échelle s'ils veulent ou non aller plus loin. Et c'est là que ça pourrait se gâter. Fabien Dumas est délégué fédéral de Sudrail.
Le 6, le 7, ça doit être l'élément déclencheur. Après, il y aura un ensemble d'assemblées générales. Si les assemblées générales disent reconductibles, on partira sur des reconductibles.
Chez les syndicats plus modérés, pas question de faire payer les vacanciers. CGT et Sud sont adultes, elles devront assumer du point de vue de l'opinion, répond Thomas Cavel de la CFDT.
Choisir le 6-7 pour les départs en vacances, les organisations syndicales qui font ce choix-là, elles répondront de leurs actes en fonction de ce qui se passera.
La CFDT qui, comme l'UNSA, préfère encore profiter de l'été pour souffler, 36 jours de grève. Ça laisse des traces, d'autant qu'avec les négociations sur la convention collective en septembre, le match risque bien de s'éterniser.
C'est un exercice inédit de transparence. La police des polices a publié pour la première fois hier le nombre de personnes tuées ou blessées lors d'interventions policières depuis juillet dernier, soit 14 tués et une centaine de blessés, avec plus de 8 jours d'incapacité de travail. Ce recensement n'est pas le recensement des bavures policières, a prévenu d'emblée la chef de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. On n'a rien à cacher, cela va éviter les fantasmes, les fake news et les campagnes de dénigrement, a déclaré de son côté le syndicat Synergie Officier.
Il est 7h06, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Vous écoutez les matins de France Culture. Ils avaient demandé davantage de justice sociale au Maroc. Ils ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison.
Les meneurs du Hirak, le mouvement de contestation sociale qui agite le Maroc depuis 2016, ont été condamnés hier soir à Casablanca à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison à l'issue d'un procès fleuve de 9 mois où 53 personnes comparaissaient. Le leader du mouvement, Nasser Zefzafi, a écopé de la peine la plus lourde pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Cet ancien chômeur de 39 ans avait été arrêté pour avoir interrompu le prêche d'un imam ouvertement hostile au mouvement de contestation sociale dans une mosquée d'Al-Oseima, l'épicentre de la protestation qui a secoué la région historiquement frondeuse et marginalisée du Rif. L'État a échoué dans ce test de respect des droits de l'homme et des libertés essentielles, tout comme l'indépendance de la justice, a déclaré l'un des avocats de la défense. Le navire humanitaire Lifeline attend de pouvoir accoster à Malte avec 233 migrants à son bord. Des migrants que 6 pays européens, dont l'Italie et la France, ont accepté de prendre en partie en charge. Emmanuel Macron l'a dit hier au Vatican, après un entretien avec le pape François, le président français, sur une ligne de crête entre dénonciation des populismes et fermeté sur l'accueil des migrants. Louise Baudet.
D'un côté, une confirmation. La France sera l'un des 6 pays européens à accueillir les 233 migrants qui se trouvent sur le navire humanitaire Lifeline.
La France fera partie des quelques États membres qui prendront des personnes qui se trouvent aujourd'hui sur le Lifeline. L'OFPRA est d'ailleurs déjà en route vers Malte pour pouvoir procéder à cette mission.
Cette solution d'urgence ne fera pas jurisprudence, précise hors micro Emmanuel Macron qui étrille l'ONG allemande. Elle a coupé le signal, contrevenu à toutes les règles et fait le jeu des passeurs en réduisant le coût du passage. C'est d'un cynisme terrible. À peu de choses près, le discours du gouvernement italien dont Emmanuel Macron a rencontré le chef Giuseppe Conte lors d'un discret dîner au soir de son arrivée à Rome. Le chef de l'État français qui ne manque pas de rappeler sa doctrine en matière d'accueil.
L'Europe peut prendre sa part, mais elle ne peut pas prendre plus que sa part. Nous serons là pour être à la hauteur de nos principes, mais sans non plus céder au discours de facilité ou d'émotion et en disant que tout est possible et que l'Europe est un nouvel Eldorado.
Ces deux prochains jours à Bruxelles, Emmanuel Macron va promouvoir l'idée de centres fermés sur le sol africain et en Europe, dans les premiers pays d'accueil volontaire comme la Grèce, se réjouit le chef de l'État. Modérément optimiste toutefois sur l'issue du sommet qui s'ouvre demain, il n'y aura pas de solution à tout.
Le nombre de migrants refusés aux frontières françaises a bondi depuis 2015. 85 408 personnes ont été non admises l'an dernier, c'est ce qu'affirme la CIMAD dans un rapport qui dénonce un détournement de la lutte antiterroriste pour contrôler la migration au sein d'une Europe qui s'enferme. Les chiffres donc de non admission aux frontières françaises ont bondi de 34% comparé à l'année précédente. Lui a remporté une victoire politique et symbolique sur la question migratoire. Donald Trump s'est félicité hier de la décision de la Cour suprême aux États-Unis. Après 10 mois de débats publics et judiciaires, la plus haute juridiction du pays a finalement validé hier soir le décret présidentiel qui durcit les conditions d'accès aux États-Unis, donc des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Une victoire pour l'administration Trump qui est toujours empêtrée dans sa gestion de la crise des migrants et des familles séparées à la frontière du Mexique. La correspondance à Washington de Grégory Phillips.
La troisième fois a donc été la bonne. Le décret présidentiel, plusieurs fois réécrit, a donc été finalement validé par la Cour suprême des États-Unis. Le texte limite désormais les conditions d'accès des ressortissants de 7 pays, Yémen, Syrie, Libye, Iran, Somalie, Corée du Nord et Venezuela. Les juges de la Cour suprême ont estimé que le président était dans son droit constitutionnel et qu'il n'y avait plus de motivation religieuse derrière ce texte, comme à l'époque pour le Muslim Ban, qui avait été promis par Trump et rejeté par les tribunaux. Donald Trump a salué une fantastique victoire, et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour son administration qui reste empêtrée dans la crise des enfants de migrants séparés de leurs parents. Très peu de familles ont été réunies. La politique de tolérance zéro prônée par la Maison Blanche est à l'arrêt car les gardes frontières ne disposent pas pour l'instant de lieux suffisants pour accueillir des familles entières et pour l'heure, celles qui traversent la frontière illégalement ne sont plus poursuivies. Parallèlement, 17 États américains ont engagé une procédure contre l'administration pour qu'elle cesse de séparer les enfants et les parents. Les parlementaires, enfin, se sont eux aussi saisis du dossier, mais le texte qui sera examiné tout à l'heure par la Chambre des représentants a pour l'instant peu de chances de passer.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. En Espagne, le premier procès du scandale des vols de bébés pendant la dictature franquiste a commencé hier à Madrid. Un scandale national et un drame personnel. Le docteur Eduardo Vela est accusé d'avoir volé Inès Madrigal à sa naissance en 1969 pour la remettre à un couple stérile. Hier, le vieil homme de 85 ans a dit ne pas savoir, ne se souvenir de rien, Mathieu de Taillac.
Certes, le docteur Vela a nié ou dit avoir oublié. Bien sûr, il plaide à la fois l'innocence et la prescription et la seule preuve contre lui sont des papiers qu'il dit avoir signés sans les lire. Évidemment, même s'il est condamné, il n'est pas dit qu'Eduardo Vela aille en prison à 85 ans, mais l'ouverture même du procès contre un présumé voleur et vendeur d'enfants, qui plus est dans un pays qui peine à regarder sereinement l'histoire de la dictature franquiste, c'est déjà une victoire. Celle d'Inès Madrigal, bien sûr, la partie civile de ce procès, mais au-delà, c'est un collectif nombreux qui s'est mobilisé à travers des associations d'aide aux familles dont les enfants ont été volés et aux personnes qui soupçonnent d'avoir été adoptées illégalement. Montserrat, rencontrée devant l'audience provinciale, est bénévole dans l'une de ces associations.
On a travaillé 3 ans. Ils vendaient les petits-enfants comme si c'était des petits chiens. C'est affreux, hein. Ce procès, c'est formidable. C'est bien, c'est bien. Celui-là, mais il va venir encore plus. Parce que les maires, ils sont en train de lutter pour le problème qu'ils ont.
Elles luttent, ces mères, et elles attendent beaucoup de ce premier procès. Une condamnation, et en tout cas l'invalidation de la défense du docteur Vela, qui affirme qu'il y a prescription. Sur les 2000 dossiers qui ont été constitués, 90% ont été classés. Les familles espèrent qu'un verdict favorable puisse faire jurisprudence.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Les bébés volés sous Franco, un procès pour un scandale national. C'est un dossier à retrouver en une sur franceculture.fr. La peine maximale au procès d'une famille djihadiste. La justice a infligé hier 10 ans de prison au fils parti en Syrie. Il avait appelé à d'autres attaques juste après celle de janvier 2015 à Paris.